Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le débrief de la tech ce soir avec nos spécialistes Zoé Meul, bonsoir.
Bonsoir.
Zoé, associée chez Balderton Capital. Enguerrand Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Enguerrand, consultant chez Image7 et ancien journaliste dans de nombreux médias, les plus prestigieux, Presse Écrite, Le Figaro, Le Monde, Les Échos. Enfin voilà, on t'a lu partout pendant des années. Aujourd'hui, tu conseilles les entreprises chez Image7. Et puis à distance, Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno. Merci d'être avec nous. Donc, tu es à Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Je vous le conseille, hein, même si Bruno est loin. Déjà, c'est en langue française, donc c'est plus facilement accessible pour nous francophones. Et puis, il y a plein d'infos intéressantes. En plus, avec ce regard du continent nord-américain, toujours en particulier, et ce double regard, celui de Bruno, qui connaît bien l'actualité et qui a toujours aussi cette petite touche hein, que l'on aime bien et que l'on aime bien, notamment ici chez Tech & Co. Alors, ce soir, on va parler, je l'ai dit, d'Apple qui préparerait de la robotique pour la maison. Alors, est-ce que c'est le one more thing un peu en avance par rapport à la WWDC? On va parler aussi, vous savez, c'était la AWS Summit il y a quelques jours. François Sorel y était, c'était hier. Et puis, AWS en a profité pour annoncer son nouveau service Bedrock avec plein d'IA. Il y a du Claude 3, il y a du Mistral, il y a du Stability. Enfin, voilà, c'est une plateforme. On va essayer de comprendre un peu ce que fait AWS dans le domaine. Et puis, on aura évidemment ce tremblement de terre à Taïwan, hein, qui est assez tragique, évidemment, mais bien là, le monde économique et le monde de la tech s'inquiètent, parce que, vous le savez, évidemment, tous les grands fondeurs de semi-conducteurs sont là-bas. TSMC a arrêté plusieurs centaines d'usines. Hein. Donc, voilà, ça inquiète aussi, alors à la fois pour les pertes humaines, évidemment, mais aussi les pertes économiques. On va revenir aussi sur le levée de fonds. Et oui, le levée de fonds, ça cale un peu. Si vous étiez à l'instant Guillaume Paul, eh bien, vous avez entendu ça. Oui, on a du mal, mais pourtant, on a une belle start-up qui est avancée, elle s'appelle Pigment. Vous la connaissez peut-être, ça avait été notre révélation des BFM Awards cette année. Pigment qui vient de lever, enfin qui passe licorne en levant combien ?
145,
j'allais dire 200, mais c'est 145.
Mais au total, quasiment 400.
Oui, oui. Et puis avec son étonnante, sa pétillante PDGère et fondatrice. Et puis on parlera, si on a le temps, on parlera des 20 ans de Gmail. Et oui, 20 ans déjà, vous rendez compte, alors qu'on a l'impression de l'utiliser au quotidien depuis quelques années, ça fait déjà 20 ans que nous utilisons tout ça. Allez, on démarre avec Apple et la robotique. Qui démarre? Enguerrand, on a été un peu surpris. Donc, on rappelle, hein, WWDC, donc la grande conférence développeurs d'Apple, c'est le 10 juin. On a eu l'annonce. On verra, on imagine qu'il y aura beaucoup d'annonces autour de l'IA. Et puis là, on s'étonne un peu parce que c'est vrai que j'ai fait un petit bilan tout à l'heure. Je me disais, l'Apple Car, bon, qui était un échec, mais en même temps, on n'en parlait pas vraiment. On savait
oui,
pas
mais
trop.
Ça peut revenir.
Voilà, ça peut revenir.
En tout cas, ils ont misé beaucoup et ils ont dit qu'ils l'abandonnaient.
Provisoirement, c'était mis de côté. On estime qu'il y a un certain retard en intelligence artificielle aussi par rapport au Apple, au Meta, par rapport au Google, par rapport à Microsoft.
Et ça, c'est plus qu'une estimation, puisqu'il a confié à Google
le fait de
mettre le moteur de recherche et l'intelligence artificielle dans les smartphones.
Voilà, le décollage difficile du casque Vision Pro. Bon, on sait qu'il y a plein de technologies, mais on voit quand même que même les plus passionnés se disent « oui, c'est sympa, mais la concurrence à venir sur les magasins d'applications avec le DMA hein, qui permet à d'autres sociétés, on a vu les Epic, les Sony, les Microsoft qui sont en train de se poser des questions autour des, et ça ferait des revenus en moins pour Apple. Les processeurs, bien oui, Apple a ses propres processeurs, mais il y a une grosse bataille aussi derrière tout ça, surtout autour de l'IA. Le marché chinois qui doit représenter le levier de croissance pour Apple et ça se complique. Hein. Il y a une grosse concurrence aussi là-bas. La succession de Tim Cook à laquelle il faut penser aussi. Et puis voilà, depuis le 1er janvier, l'action a perdu 11%. 330 en bourse, ça fait 330 millions de dollars qui se sont comme ça évanouis. Bon. Ça reste Apple.
Ça reste quand même la
première capitalisation ou la deuxième avec Microsoft, deuxième capitalisation mondiale boursière et voilà avec toute la réussite autour de l'iPhone. Mais voilà, on a donc Marc Gourman, journaliste très très bien informé souvent de chez Bloomberg, qui nous dit Eh bien, figurez-vous qu'Apple préparait peut-être un petit robot. Alors, pas un robot humanoïde, hein, plus,
non, plus un robot domestique.
Voilà, un robot compagnon.
Non, mais le vrai problème, c'est qu'Apple est en panne de croissance. On l'a vu sur les résultats de l'année 2022-2023, parce qu'ils sont un petit peu décalés. C'est une panne de croissance. Là, le premier trimestre qui s'est terminé en décembre, et les ventes d'appareils sont stables. Il n'y a que les services qui progressent. Et les services risquent d'être un tout petit peu perturbés par l'application du DMA, du moins en Europe. Donc ils ont un problème de croissance. C'est un énorme problème de croissance. Et Apple a toujours réussi à trouver des relais de croissance. Smartphone, des relais de croissance, voilà. Les services, le streaming musical et autres. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le troisième étage de la fusée qui manque, quoi. Tu l'as dit, la voiture, ça sera pas ça. L'intelligence artificielle, qui est le relais de croissance pour tout le monde, sauf pour Apple. Et l'annonce, si toutefois elle est confirmée dans les prochains jours par Tim Cook, elle laisse un peu sur sa fin. On va quand même pas dire. Enfin, Apple, c'est qu'il nous a habitués à ce qu'on appelle des projets moonshot.
C'est-à-dire, justement.
Et là, c'est la robotique domestique. Personnellement, ça me fait pas rêver.
Oui, non, ça nous fait pas rêver. Justement, on va écouter ce qu'en disait Anthony Morel, notre spécialiste, l'un de nos spécialistes tech et geek, que vous retrouverez d'ailleurs ce week-end. C'est lui qui anime De quoi je me mail. Anthony Morel, on l'écoute. Il était dans la matinale de BFM Business. Voilà ce qu'il disait ce matin même, alors qu'on venait d'apprendre justement qu'Apple travaillerait sur de la robotique. Et lui aussi, je crois qu'il n'est pas très impressionné.
Deux modèles sur lesquels travaille Apple. Le premier, ce serait un écran robotisé qu'on pourrait poser sur un bureau, par exemple. Les premières versions testées seraient notamment capables d'imiter les mouvements de la tête de votre interlocuteur en visioconférence. Ouais. Donc votre interlocuteur hoche la tête, le robot hoche la tête aussi. Bon, pourquoi pas, on verra. Et le deuxième modèle, c'est un robot mobile capable de suivre les utilisateurs partout dans la maison.
Ah, c'est un peu R2D2.
C'est un peu ça, exactement. Moi, ça me fait penser, alors on n'a pas encore toutes les infos, hein, c'est encore très parcellaire parce que c'est vraiment le début du projet, mais à ce qu'a présenté Samsung lors du CES de Las Vegas, un petit robot qui s'appelle Bolly, qui vous suit partout et qui peut, par exemple, projeter un écran sur n'importe quel mur, jouer avec un animal de compagnie, chercher un objet que vous avez perdu dans la maison, ça pourrait être ce genre de fonctionnalité. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple a près de son campus de Cupertino un laboratoire secret qui ressemble à l'intérieur d'une maison, où il teste toutes ces innovations. Il a recruté des spécialistes en robotique. Il y a une équipe de chercheurs en intelligence artificielle qui travaille sur le projet. Et ce projet, il est finalement assez cohérent avec la stratégie de diversification d'Apple. Vous savez qu'ils essayent de trouver des nouveaux relais de croissance à côté de l'iPhone. Effectivement, il y avait ce projet de voiture. Bon, ils ont abandonné. Eh bien, ce nouveau projet industriel, ça pourrait être assez logique finalement dans les plans d'Apple. La direction a annoncé à ses cadres que l'entreprise allait se focaliser sur, un, la réalité mixte avec l'Apple Vision Pro, et deux, sur la maison, énorme marché potentiel, mais sur lequel Apple ne sera pas le seul, puisque au-delà de Samsung, dont on parlait à l'instant, on a aussi des entreprises comme Amazon ou Tesla, avec son robot Optimus, qui travaille aussi sur la notion de robot domestique.
Avant de revenir avec nos débriefeurs ici, Bruno Guguel Minetti, tu es à Québec. Qu'est-ce que tu penses un peu est-ce que tu trouves cette stratégie cohérente, comme le dit Anthony Morel? Tu trouves ça un peu décevant, comme on vient de le dire ici, comme vient de le dire à Enguerrand? Quel est ton regard?
Disons que c'est surprenant, mais de l'autre côté, et comme le disait mon collègue panéliste tout à l'heure, Apple est à la recherche d'une troisième partie de sa fusée pour continuer sa montée, et ils doivent trouver quelque chose. Et il faut garder en tête que dans l'expérience automobile, qui a quand même pris 10 ans de vie et de financement chez Apple, ça a quand même donné des choses. Tout ce qui est autour du Vision Pro, ça a été développé à l'époque lorsque les équipes de Apple cherchait à embarquer l'AR et le VR à l'intérieur de l'habitacle de la voiture.
Il y a beaucoup de cette recherche-là. Réalité virtuelle et réalité augmentée, je précise.
Exactement, ouais. qui a permis de bonifier l'expérience du Vision Pro. On peut imaginer qu'il y a d'autres technologies qui ont été développées dans ce contexte-là. Et puis, sachant et regardant les embauches qui ont été faites dans ce domaine-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des efforts, il y a un intérêt de ce côté-là. Mais comme le disait précédemment mon collègue, il y a quand même Amazon qui est dans le domaine et qui fait pas vraiment bien. Et dans le cas de Bali, de Samsung, c'est la deuxième fois que Samsung arrive avec ce produit-là et il n'est pas encore sur le marché. Oui. Alors moi, j'ai bien hâte de voir, est-ce que les gens sont prêts à avoir des petits robots personnels qui vont les suivre comme des R2-D2 dans le quotidien? C'est pas donné. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait de la recherche et du développement qui se fasse. Ils ont quand même une bonne caisse dans laquelle ils peuvent aller piger pour financer de la recherche et du développement. Alors, oui, ça peut être une piste, mais il faudra voir à moyen terme. Et de toute façon, comme tu disais, Frédéric, au mois de juin, déjà, on va avoir peut-être certains sons de cloche là, avec ce qui sera présenté aux développeurs.
Oui, Zoé. Je suis assez d'accord. Enfin, Amazon serait peut-être le candidat le plus... qui nous viendrait à l'esprit en premier, puisqu'il y a Alexa, donc on mettrait un robot avec Alexa, ce qu'ils ont essayé de faire avec Astro, je crois que c'était en 2021. Je ne sais pas si c'est un flop, mais en tout cas, ce n'est pas une réussite. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter que c'est on demand, donc on demande.
Et on n'est pas encore habitué, tout simplement.
Le robot est produit et ensuite il est livré et le leadership de cette équipe-là n'est pas très stable. Il y a des personnes qui sont parties récemment, fin d'année dernière. Donc. Pas certaine de voir un succès d'un robot de maison qui sait faire plein de choses différentes. Mais par contre, ça revient un peu à la question de l'IA, comme on l'avait envisagé au début.
L'assistant personnel.
Ouais, l'assistant. Enfin, non, j'allais dire l'IA physique, c'est-à-dire robotique, qui fait des. En fait, c'est beaucoup plus complexe de créer un robot que de créer un LLM. Et ça, on ne s'y attendait pas. On pensait que l'IA allait d'abord révolutionner le monde des cols bleus avant de révolutionner le monde des cols blancs. Ça s'est fait de la manière opposée, en commençant par les créateurs, créatrices de contenu. Donc c'est un peu... Mais là où ça fonctionne aujourd'hui, c'est dans des tâches répétitives, spécifiques, pas vraiment dans le côté génératif.
Mmh, oui.
Donc je ne le vois pas pour l'instant, mais peut-être pour des tâches très spécifiques. Peut-être.
Après, comme le dit très bien Bruno, c'est les rumeurs, parce que ce sont encore des rumeurs. Hein, c'est pas Apple qui a annoncé on va lancer un robot. C'est Mark Gurman, donc qui est toujours bien informé. Mais peut-être, voilà, il a réussi en fouillant quelques dossiers. Il s'est dit tiens, ils sont en train de bosser dessus. Et c'est
souvent,
peut-être
souvent Apple laisse des indices.
Oui, en plus,
faut quand même le savoir. Tu les suis depuis suffisamment longtemps. Tu sais très bien. Tu te souviens une fois, il y avait un nouveau modèle de smartphone qui avait été oublié par hasard dans un Starbucks. Il me semble. Enfin, voilà, ou dans un autre restaurant.
On a pas vu si un smartphone pliant avait été oublié, pas encore.
Ce qui m'intéresse, et quand on suit la tech, ce qui est toujours intéressant, c'est l'usage. L'usage. C'est-à-dire qu'un smartphone, l'usage, en quelques mois, la Terre entière voulait un smartphone. Mmh. On l'a vu avec ChatGPT, en quelques semaines,
tout le monde voulait
100 millions de personnes ont prompté sur ChatGPT. Quand l'usage est là, le marché se développe à une vitesse grand V. La robotique domestique, l'usage, et ça fait longtemps, hein, on l'a vu, il l'a dit.
Mais on avait mis des Français, Amazon, hein, des Français ont lancé aussi leurs produits.
Aldébaran, chez Aldébaran, par exemple, il n'y a pas d'usage. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a des usages, voilà, alors pour des enfants parfois qui ont des particularités, des enfants autistes, on en parle dans ce domaine-là, dans des angles très précis. Mais c'est vrai que même à la maison, et je pense que quand Zoé parlait tout à l'heure, je disais, on n'est pas encore bien habitué non plus à parler à nos enceintes. Enfin, c'est pas encore dans notre façon d'être.
Mais moi, je me rappelle quand Alexa est sortie, je vivais aux États-Unis à l'époque, mais c'était pareil ici. Le fait qu'on puisse parler à Alexa, c'était une révolution en tant que telle. Je pense pas. Pour revenir sur ton point, je ne pense pas qu'ils vont s'atteler à un petit marché. Non, je pense qu'ils vont chercher un gros marché, mais par contre, il va falloir que ce soit une tâche spécifique et répétitive. Donc, je ne sais pas trop. Ça réduit les options, quoi.
Bruno, toi, tu en penses quoi? Et notamment autour de l'IA, parce qu'on sait que depuis le départ de Goodwill en 2022, qui était l'une des têtes pensantes de l'IA chez Apple, il n'a pas vraiment été remplacé. Là, on voit que Johnny Ive, il a drainé pas mal de monde. Il signe avec OpenAI, il a drainé pas mal de gens de l'IA. On sent que Apple est un peu à la recherche aussi de ses cerveaux, hein, parce que ça vient de là aussi. Il ne s'agit pas d'avoir des équipes et des milliards. Il faut aussi les quelques uns qui pensent un peu plus vite que les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est intéressant parce que ça me permet de ramener le fait qu'on a l'impression qu'il y a toute une couche d'exécutifs chez Apple qui ont pris leur retraite, qui sont partis. Un peu comme s'ils se disaient, les bonnes années sont passées et puis on laisse la chance à une nouvelle génération de créer quelque chose. Et on les voit partir chacun de leur côté en train de démarrer leur propre service ou sinon d'aller travailler avec d'autres organisations. Et j'ai l'impression que, puis de toute façon, ça a déjà été dit ce soir, j'ai l'impression qu'Apple est vraiment à la recherche du next big thing et ça va se faire dans la recherche et dans le développement. Et là, on est un peu en train de tirer un peu partout. Là, malheureusement pour eux, Bloomberg vient de mettre la main sur des informations. Alors, on parle de ça, mais j'ai l'impression qu'on va devoir encore attendre une bonne année facilement avant de commencer à avoir des vraies rumeurs sérieuses sur un produit qui potentiellement pourrait être intéressant. Mais effectivement, on doit d'abord et avant tout tabler sur une demande, un besoin. Quand Steve Jobs est arrivé avec l'iPhone, les téléphones intelligents existaient déjà. Il y avait des Trio, il y avait des Nokia. Ben, ils n'étaient pas aussi évolués, on s'entend. Il y avait des BlackBerry. Il a amélioré l'expérience. Mais là, il faut regarder autour de soi qu'est-ce qui reste à améliorer et on peut déjà avoir des pistes.
Oui, on sentait qu'il y avait on savait pas identifier ce besoin. C'est vrai qu'on utilisait tous des BlackBerry, des Nokia, des téléphones Alcatel. Alors, on téléphonait, on envoyait des messages. On avait encore du mal à voir le besoin. Et puis bon, là, on l'a rapidement évoqué. Alors, on a fait le tour de ce sujet-là. Je voulais aborder un autre sujet important. Donc, il y a quelques jours, il y a eu un tremblement de terre donc à Taïwan. On a vu toutes ces images assez sidérantes. Il y a malheureusement eu quelques morts. Alors, il y a eu une alerte au tsunami. Enfin, voilà, il y a tous ces événements tragiques. Et puis, évidemment, Taïwan, c'est aussi beaucoup d'industries, notamment dans le domaine de la fonderie, de la conception de circuits intégrés, de l'assemblage, de tout ça, l'encapsulation. Et là, on voit, TSMC le premier, a dit, nous, on va fermer plusieurs centaines d'usines. C'est pas plusieurs centaines, plusieurs sites, quelques chaînes d'assemblage. Non, c'est plusieurs centaines d'usines pour justement protéger nos ouvriers, voir un peu, évaluer un peu les dégâts ou les potentiels dégâts ou ce qui pourrait arriver. Et là, du coup, ça tremble un peu, Enguerrand.
Oui, on ne se rend pas compte de la dépendance du monde vis-à-vis de cette toute petite île de Taïwan. Plus de 55% de toutes les puces de tous les semi-conducteurs qui sont partout, dans ce studio, il y en a absolument partout, sont fabriqués à Taïwan. Et 90%, c'est juste énorme, des puces les plus avancées, celles qui sont en dessous de ce qu'on appelle 10 nanomètres. Oui. Et toutes les puces de Nvidia, première ou deuxième capitalisation mondiale. Nvidia, c'est le moteur de l'intelligence artificielle, mais ce moteur ne fonctionne qu'avec les puces Nvidia qui sont elles-mêmes fabriquées par TSMC à Taïwan. Quand on voit l'impact économique, le tremblement de terre économique qu'il y a eu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se dit que quoi qu'il puisse arriver à Taïwan, ça peut être un tremblement de terre. On l'a vu au Japon, le tremblement de terre de Kobe a mis fin à la croissance japonaise. La croissance des années 70, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'invasion de la Chine.
C'est un souci. Ça reste toujours, il y a cette épée de Damoclès.
Quelle que soit la raison, s'il arrive quoi que ce soit à Taïwan, le monde entier.
Oui, parce qu'il faut bien rappeler. Je rappelais les métiers. Donc il y a de la conception de circuits intégrés, il y a de l'assemblage de composants, il y a de la fonderie. C'est 68% du marché mondial de la fonderie de puces. Et puis derrière, on parle de ces usines, mais on parle aussi de le fournisseur d'énergie, qui lui aussi est-ce qu'il va redémarrer tout de suite. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème autour de ça. Oui, il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui, alors qu'on a un tel besoin et on l'a vu pendant le Covid. Sans composants, on a même vu des chaînes d'assemblage de voitures.
Qui
s'arrêtait, Zoé.
Non, enfin, rien à ajouter. Je pense que la dépendance, on l'a pas forcément en tête parce qu'on pense Nvidia et en fait Nvidia dépend de la fonderie de puces de SMC, comme tu le disais.
Nvidia, c'est fabless. Ça n'a pas de. Ça ne fabrique rien.
Exactement. Et toute l'histoire de TSMC est fascinante. Je vous conseille le podcast Acquired là-dessus qui dure 3 heures, qui raconte de A à Z. Ouais. Mais enfin. Pour créer
avec des rachats, une société qui en 2015 était proche de la fin, s'est relancée avec des rachats. Enfin voilà,
c'est le gouvernement taïwanais qui a demandé au fondateur de commencer TSMC. Mais ça demande, il y a des demandes de capitaux immenses, en tout cas au début. Je rajouterais peut-être un point qui est qu'ils sont habitués au séisme, pas de cette envergure-là, on parle d'un séisme de 7.2, il n'y en a pas eu un comme ça depuis 25 ans, mais ils ont mis en place pas mal de choses, donc par exemple les machines qui sont arrêtées, ils sont en mesure de les redémarrer en l'espace de 36 heures, parce qu'ils ont eu des entraînements au préalable. C'est plutôt la provision en énergie. Et la menace
c'est pour ça que j'en parlais, c'est tout l'écosystème alentour.
Et surtout, les questions géopolitiques qui sont autour.
Bruno, ton regard voilà, depuis Québec de ce tremblement de terre et justement de ce choc hein, aussi pour l'industrie, pour l'économie?
Ben, je reviens sur les propos de Enguerrand quand il disait qu'on ne se rend pas bien compte, mais je vous dirais que les Américains, eux, s'en sont rendus compte assez rapidement pendant la COVID. Et c'est pour ça qu'ils ont investi des milliards pour l'installation de lieux où on va pouvoir produire des microprocesseurs sur le territoire américain, parce que plus jamais, c'est Joe Biden qui le disait, plus jamais il veut voir les États-Unis être dépendants, peu importe du pays autre, il veut être souverain dans ses microprocesseurs. Et j'avoue que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu cette réflexion-là du côté de l'Europe. Il y a eu des investissements qui, malheureusement, sont en train de bouger. Là. Il devait y en avoir en France, finalement, c'est plutôt en Allemagne, peut-être que ça va se faire. Mais c'est une question qui est importante et ça ramène l'importance de la souveraineté technologique des grandes sociétés sur la planète.
Pour moi, ça ramène deux choses, parce qu'on parle beaucoup des atouts de l'Europe, alors voilà, nos cerveaux, etc. Mais des atouts d'Europe, c'est aussi une énergie décarbonée, quand même. Enfin, notamment, on parlait pour la France, hein. L'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais la France, énergie décarbonée. On va avoir des besoins en eau. en ce moment, en France, on peut fournir. Bon, il y a quand même toute une structure à mettre en place. Mais voilà, on a peut-être des atouts en énergie. On est très à cheval sur tout ce qui est développement durable. On n'est quand même pas dans des zone sismique de ce point de vue-là.
Frédéric, c'est quand même c'est pas facile de relocaliser la production. Non. C'est une usine de 7 nano, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc ce que disait
ne serait-ce que pour déménager les machines ASML, enfin pour en installer une, c'est un an pour l'installer, c'est une machine de 150 tonnes.
Et mon collègue disait effectivement les États-Unis ont réagi très rapidement avec un Chips Act. L'Europe aussi, il l'a signé quasiment dans la foulée. C'est quand même 50 000. L'Europe a mis 50 milliards de dollars sur la table, mais 50 milliards de dollars, on a l'impression que c'est beaucoup. Finalement, à l'échelle de la nécessité en capitaux pour faire des nouvelles usines de dernier cri. Mm-hmm. Parce que ce qu'on a fait, là, on l'a vu, il y a eu un investissement de Broadcom avec ST Microelectronics à Grenoble, qui est quand même le lieu en France où on produit le plus de semi-conducteurs. Bon, c'est pas les puces de dernière génération.
C'est des 16, 20 nanomètres. Voilà, et là, on est bon dans les voitures, c'est bien. Dans les frigos, c'est bien.
En France, il me semble une capacité en dessous de 10 nanomètres. Il me semble. Ça à vérifier. Mais c'est ça l'avenir. Et quand on voit Nvidia qui dit effectivement, qui remplace sa H100 par une G500, il me semble, avec une finesse de gravure qui est inimaginable en Europe, on va mettre des années et des années et des milliards et des milliards d'euros pour rattraper.
Est-ce que c'est inimaginable? Est-ce qu'on a un manque de talent? Le fondateur de TSMC avait travaillé chez Texas Instruments avant et dans d'autres maisons.
Non, je pense pas qu'on a des manques de talents. Je pense que c'est une question de d'infrastructure et d'investissement. Si ça coûte très 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 cher, on l'a vu à Grenoble. À Grenoble, c'est l'État qui a payé la facture de l'installation de Broadcom quand même.
Mais rien qu'à ASML, hein, on l'a vu, on a parlé ici même l'autre jour, une machine ASML c'est 150 tonnes, c'est 6 mois pour aller l'installer, c'est 6 mois pour la paramétrer, et ASML ils sont pas capables d'en construire comme ça indéfiniment, parce qu'à un moment il était question qu'ASML vienne installer un centre de production en France. Bon, je crois que c'est plus du chantage qu'autre chose, parce que
c'était du chantage vis-à-vis du gouvernement néerlandais.
Pour rester sur Eindhoven et dire écoutez, faites des choses pour nous, parce que notre région fait un peu pitié, alors que on est au centre du monde aujourd'hui avec nos machines. Bruno, tu nous vois comment toi par rapport à cette histoire de souveraineté? C'est vrai qu'on avait, alors nous, c'est Intel pour ne pas les nommer, avait choisi la France pour un centre de recherche et puis l'Allemagne pour un centre de production. Ils ont démarré en Allemagne. Bon, en France, Pat Gelsinger a dit il y a quelques jours, on reporte, on a d'autres priorités aujourd'hui. Et quand il a rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours, c'était plus pour lui dire écoutez, on est en train de construire des usines formidables aux États-Unis, comment vos industriels pourraient venir produire chez nous, hein? C'était un petit peu ça.
Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas vu de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai l'impression que c'est un manque de vision politique. Et j'imagine, on rêve, là, on discute, j'imagine un Bruno Le Maire qui prendrait le dossier dans les mains et partirait à la recherche de partenaires économiques du côté privé qui voudraient s'associer au gouvernement. Moi, j'ai l'impression qu'ils arriveraient à trouver le financement pour installer un vrai fabricant de microprocesseurs qui pourrait par la suite rayonner sur toute l'Europe. Mais je le sens pas, ça. Je sens des partenaires financiers qui viennent tourner autour de la présidence, du premier ministre, mais je sens pas vraiment d'oreille et je vois surtout pas de vision à moyen et long terme. Et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut être conscient de l'importance des microprocesseurs dans le développement économique des pays. Et ça, je le sens pas du tout de chez vous.
Moi, je milite pour qu'on ait deux premiers ministres, un premier ministre classique et un premier ministre numérique qui suivent que ces sujets-là et à tous les niveaux. Et pourquoi pas Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'il avait fait un discours, j'en parle souvent, du World AI Can, il y a deux mois à peu près, qui était assez, assez visionnaire. On se dit, tiens, si tous ses engagements dans ce discours étaient tenus, bien oui, il a mis le doigt sur tout ce
qui... Mais Bruno a raison, on a beaucoup parlé d'argent, mais il faut une vision.
Bruno Guglielminetti.
Oui. Excuse-moi, Bruno. Il faut une vision.
Ouais.
Et c'est ce que Joe Biden, qui a beau être relativement âgé, on lui reproche suffisamment, avait quand il a fait l'IRA.
Mais il a connu l'histoire aussi. Il a connu l'histoire. Il est âgé justement. Il a vu tous ces usines qui sont parties, ces géants, ces IBM, ces grandes sociétés. Bon, il en reste que Microsoft aujourd'hui. Bon, il y a encore des Aura qui vivent encore, mais il a quand même vu tous ces géants à l'époque, ces Sun Microsystems, enfin toutes ces immenses sociétés. Tous partis et puis là aujourd'hui se dit non il faut que ça revienne, donc je pense que lui aussi ça doit le travailler parce que c'était la puissance américaine, Bruno, toi qui regardes de
et puis après tranquillement c'est retourné au Japon, c'est retourné à Taïwan et la Chine a pris une place qu'elle n'avait pas puis est en train de bien faire de son côté. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que c'est une question de vision et tant que ça ne sera pas une priorité pour l'État français et même de vos voisins, j'ai l'impression que vous serez justement tributaire de ce qui se passe en Asie encore. Et puis du côté du Canada, je vous dirais qu'on est beaucoup partenaire avec ce qui se fait. Il n'y a pas de grandes usines de microprocesseurs, mais à part celle de IBM au Québec, qui a aussi un ordinateur quantique. Mais sinon, il y a énormément d'entreprises canadiennes qui fournissent et qui sont très heureux de voir ces grandes usines américaines-là parce qu'ils fournissent des composantes. Et plutôt que les envoyer à l'autre bout du monde, ça va descendre tout simplement au sud.
Eh bien, merci à tous les trois. Vous restez avec nous, bien entendu. Bruno Guglielminetti depuis Québec, Zoé Moll et Enguerrand ici sur notre plateau. On va poursuivre notre débrief. On a encore beaucoup de choses à raconter, notamment autour de des levées de fonds, de Amazon AWS qui signe avec Mistral notamment. Et on va tout de suite retrouver le journal de l'écho avec Léo Dumas. Et puis, on enchaînera encore. Et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, on parlera aussi des magasins Amazon Go qui ferment. Vous savez, ces magasins, on ne payait pas, on n'avait plus de caisse, rien du tout. Finalement, on a été un peu blousé là-dessus. C'était des Indiens qui regardaient derrière des caméras. Il y avait un peu moins d'intelligence artificielle que ce que l'on imaginait. Voilà, on reparlera de tout ça avec nos invités tout à l'heure.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bonsoir Étienne Brack, un début d'année difficile pour les startups françaises après les sommets atteints pour la période post-Covid. Les levées de fonds avaient déjà drastiquement ralenti en 2023 et ça ne redécolle pas en 2024, sauf pour quelques-uns, on en parlera de Pigment dans un instant, mais voilà, ça reste compliqué, ça cale un peu pour les startups françaises.
Oui, la normalisation se poursuit d'après le baromètre d'EY qui a été publié, avec notamment une compilation des levées de fonds au premier trimestre pour la French Tech. Ça concerne la France uniquement, ces données, avec des startups qui ont levé 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. C'est une baisse de 5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, qui, rappelons-le, était un trimestre très compliqué, puisqu'avec la remontée des taux, la fin de l'argent gratuit, il y a un an, on avait une baisse de 58% des levées de fonds par rapport à 2022. Par contre, en termes de dynamique, vous avez toujours autant de tickets, approximativement 200 tickets depuis deux ans au premier trimestre. Ça prouve bien que vous avez des volumes qui sont toujours là, mais des tickets moins importants. On le voit, il y a beaucoup moins de licornes depuis le début de l'année, de nouvelles licornes, Donc là aussi, ça se normalise avec, rappelons-le, une dynamique l'année dernière qui avait été en forte baisse, hein, puisque vous avez 8,3 milliards d'euros qui ont été levés en 2023, moins 30% par rapport à 2022, qui avait vraiment été le pic, et ça suit vraiment la remontée des taux, hein, puisque la BCE a commencé à relever ses taux il y a bientôt 2 ans. Donc la fin de l'argent gratuit, une visibilité qui est un peu plus réduite, et puis aussi des investisseurs qui sont plus exigeants, qui demandent des startups avec la portée de cash un peu plus rapide, hein. On a des investisseurs qui sont beaucoup moins patients, donc là aussi forcément ça se voit dans les chiffres. Pour rappel, les secteurs qui se distinguent en termes de levée de fonds, la green tech, hein, très largement, hein, on se souvient que l'année dernière beaucoup de green tech avaient levé de l'argent, et bien c'est quasiment un tiers des montants qui ont été levés l'année dernière. S'en suivent à la deuxième position et troisième position le secteur des logiciels et des sciences de la vie à 13 et 14%. Donc vous voyez, il y a un grand écart entre les leaders et le reste.
Merci Étienne Brack pour toutes ces précisions, et on va reparler avec nos invités tout de suite. Je vais démarrer avec je rappelle, hein, Zoé Moll qui est associée chez Balderton Capital, Enguerrand Renaud consultant chez Image 7, et Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet Numérique, Mon Carnet de l'actualité numérique depuis Québec. Zoé, associée chez Balderton, donc tu es au cœur de tous ces investissements. Oui, c'est ce que tu ressens aussi depuis sur ces 3 années là.
Ouais, alors je pense que ça a été bien résumé par Étienne. Les taux d'intérêt bas, ça veut dire que les classes d'actifs plus risquées ont plus de sens. Quand ça remonte, ça a un petit peu moins de sens. Pourquoi est-ce qu'on prendrait tels risques si on peut avoir des rendements peut-être un peu moins bons, mais ça dépend là où vous investissez, mais un petit peu moins bons, mais très sûrs. C'est certain. Après, on n'est pas trop mal loti. 5%, c'est vraiment pas grand-chose, et je veux pas être alarmiste, mais... une baisse de 5% des levées de fonds pour les startups, c'est une chose. On a vu une baisse de 70% des levées de fonds pour les fonds d'investissement français entre 2022 et 2023. Les fonds d'investissement ont levé 1,3 milliard versus 7,7 milliards. Folie des grandeurs d'avant, peut-être. Mm-hmm. C'est en train de se restabiliser. Mais d'un point de vue un peu plus empirique à mon échelle, de ce que je vois en ce moment, donc... on est en début Q2 2024. Moi, je commence à voir que ça se réanime tout ça.
Je trouve d'ailleurs dans les levées de fonds que l'on reçoit, on commence à revoir des levées de fonds au-dessus de 20 millions d'euros, 20 millions de dollars en Europe, chose qu'on voyait beaucoup moins là sur les 6 derniers mois, hein. Quand quelqu'un levait 12, on se dit c'est super, et là c'est vrai qu'on revoit un petit peu quelques montants
pour résumer, effectivement, comme Étienne l'a dit, on a autant en nombre d'opérations, mais elles ont été beaucoup plus petites. Le nombre d'opérations à plus de 50 millions a baissé de 50%, ce qui est moins qu'en Allemagne et dans d'autres géographies, hein. Donc on est pas trop mal lotis. Mais la raison pour laquelle on a autant d'opérations, c'est parce que l'écosystème est devenu beaucoup plus mature en amorçage.
Vous avez investisseurs plus exigeants aussi.
Oui, mais il y a quand même, encore une fois, il y a plus d'opérations tout au début. Donc il y a plein de bébés start-up qui ont été créés. C'est pour ce qui est après qui a été plus difficile. Quand on lève à des valorisations très importantes, parce qu'on est dans un marché porteur et qu'on doit lever le prochain tour de financement, c'est plus difficile.
On a l'impression que sur le marché français, on a un peu fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, parce qu'on retrouve un peu ce que l'on disait avant la situation Covid. Hein, c'était toujours ça. On avait, au début, les entreprises avaient pas trop de mal à lever des fonds, mais après, quand il fallait passer à l'étape suivante, c'était toujours un peu compliqué. Et on revient un peu à cette situation-là, non, de 2018-2019.
Ouais, peut-être pour oui, c'est à peu près ça. En fait, quand on lève un beau seed ou une série A vraiment en amorçage, on ne sait pas encore prouver. En général, on a moins d'1 million de revenus récurrents. C'est après que ça se complique, surtout dans un environnement où c'est plus difficile de vendre à des clients enterprise comme Pigment le fait. Donc chapeau à eux, c'est vraiment très très difficile dans un environnement qui se contracte. Donc oui, après il faut faire ses preuves pour lever les plus gros rounds.
Enguerrand.
Non, moi ce qui m'intéresse toujours dans ces sujets, et j'ai longtemps regardé, c'est deux choses. C'est d'une part tu l'as dit, Zoé, à un moment, il y a la folie des grandeurs. Donc là, souviens-toi, il y a, en 2022, les tickets à 100 millions, il y en avait, très régulièrement.
Moi, je me souviens toujours sur BFM Business, je crois qu'on a eu trois en 36 heures.
Voilà. Donc, on s'était bêtement habitué aux tickets à 100 millions. On revient
à 500 millions. Hein.
Voilà. On revient à des considérations un tout petit peu plus raisonnables. Zoé parlait de revenus récurrents, et on va en parler avec Pigment, c'est-à-dire l'ARR, le revenu récurrent, c'est-à-dire on regarde effectivement ceux qui sont capables de vendre. Et puis on commence à regarder, alors pas dans les phases d'amorçage, parce que par définition ça ne marche pas, mais on leur demande à ces startups, non pas de croître à l'infini, mais de devenir rentables à un horizon, j'allais dire, raisonnable. Donc les demandes ont changé. Et ce qui m'intéresse aussi, et ça c'est Zoé qui va pouvoir nous répondre, c'est qu'il y a une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle en bon français la poudre sèche, c'est les réserves. Est-ce qu'il en reste un tout petit peu sous le pied dans les fonds? Parce que si les taux d'intérêt baissent, est-ce que ça va reprendre immédiatement parce qu'il y a des réserves, mais ou est-ce qu'il va falloir attendre que les fonds retrouvent de l'argent chez les sponsors? Et ça, c'est une question de timing.
Oui, mais visiblement, les fonds ont du mal à lever. Donc, est-ce qu'ils ont de l'argent si ça repart?
Oui, en fait, pourquoi est-ce que les fonds ont du mal à lever? C'est pas juste parce que les taux d'intérêt sont remontés, c'est aussi parce que les perspectives d'exit, donc comment est-ce que les fonds d'investissement font un retour sur investissement, y en a de moins en moins. Côté IPO,
on a vu
complètement, c'est en train de reprendre, mais vraiment tout doucement. Côté acquisition, M&A, ça a été quand même très compliqué. Et même les belles opérations qui étaient censées être menées à bout, type Figma, ont été contrées par les gouvernements.
Soit elles ont été contrées, soit les belles opérations, c'est des entreprises beaucoup plus matures
qui se font racheter à quelques
milliards. Et dans les startups, c'est vrai qu'on a moins vu de...
Mais ce sont ces retours sur investissement qui justifient qu'un fonds retourne voir ses LPs et dire « je vais faire un quatrième, cinquième fonds et je vais investir ». Il y a pas mal de facteurs différents. Est-ce qu'il y a de la dry powder? Oui, il y en a. Mais en fait, on s'est retrouvé dans une situation où les startups arrivaient à un certain niveau de maturité qui devait se prouver après une première belle levée, sont retournées toquer aux portes des investisseurs en disant, en pensant que ce serait facile parce qu'il y a beaucoup de poudre blanche. Et en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il y a eu un moment un petit peu étrange où les deux sont un peu regardés en disant « mais qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là » Et on sent, moi en tout cas, je ressens que c'est en train de repartir. Il y a des belles levées de fonds qui sont en train de se faire.
Sur les domaines, là, Étienne Braque nous dit, c'est la green tech, c'est les life science, c'est les logiciels, voilà, d'accord avec... ça correspond.
Oui, c'est-à-dire qu'on est passé.
Alors évidemment, il y a l'IA derrière tout ça. Alors,
on est passé d'une folie des ce qu'on appelait les applications. Le logiciel, ça a toujours été là. Il y a eu la folie des applications, puis après, il y a ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire avec des... C'est des véritables inventions, c'est de la recherche qui sort des laboratoires, qui a besoin... Parce que le passage d'un laboratoire à l'industrie, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué.
Déjà pour la régulation, tout ce qui est les réglementaires,
ça,
etc.
Ça nécessite beaucoup d'argent. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et on le voit, il y a des nécessités, la green tech. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un besoin dans le monde de lutter contre le changement climatique. Donc, ça devient une nécessité.
Bruno, toi qui vois tout cela, alors déjà, comment ça se passe aussi au continent nord-américain et sur ta partie, le nord du continent nord-américain? Et puis, comment tu regardes aussi ici, outre-Atlantique?
C'est sûr que Quand on regarde ça de l'extérieur, puis je le suis parce que bon, je parle à des gens, puis aussi je fais un peu ce qui se passe par le biais de BFM Business. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a eu justement, il y a eu une période de ralentissement très sérieuse. Et là, tranquillement, pas vite, moi je sens, quand je parle à des gens, je sens que c'est en train de reprendre. Mais il manque encore un peu de confiance, mais on sent qu'on veut que ça reprenne. Et si je compare à ce qui se passe du côté de l'Amérique en général, je regardais encore, il n'y a pas tellement longtemps, un rapport de chez Deloitte qui disait que pour les 6 prochains mois devant nous, il fait bon, il faut investir, il faut acheter, il faut nourrir les nouvelles pousses. Mais puis on est dans le même domaine, la green tech, tout
life
ce qui
science,
est... Oui, exactement. C'est la même volonté d'essayer de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui pour l'ensemble de la planète. Et ce secteur-là, il est très prometteur. Et on sent que les capitaux sont là. Mais un peu comme chez vous, maintenant, les gens qui investissent demandent beaucoup plus de détails. Oui. Et on est très loin de l'époque où il y a 20 ans, il y a 24 ans, où je me souviens d'avoir été présent dans des sessions de pitch d'entreprise à San José, où l'entrepreneur, il y avait une série d'entrepreneurs qui avaient 5 minutes pour présenter leur entreprise, et puis après, il y avait des chèques de millions de dollars qui signaient sur le coin de la table en disant, avec une carte d'affaires, en disant, vous contacterez mon avocat, on investira mm-hmm. un petit peu plus tard la semaine prochaine. On n'est plus là. Les investisseurs sont sérieux et demandent que les entreprises fassent leurs devoirs et prouvent qu'elles seront rentables sur un laps de temps beaucoup plus réduit que ce qui était demandé auparavant. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, autant pour les investisseurs que même les entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'ils doivent vraiment faire leurs devoirs.
Oui, puis les investisseurs ont acquis aussi une certaine maturité, notamment dans tous ces univers hein, de la tech. Ils sont un peu moins à voir sur des potentiels technologiques qui allaient révolutionner la planète. Je me souviens de l'anecdote hein, c'est Sergey Brin et Larry Page qui vont chez Andy Bechtolsheim et pour, comme ça, juste la présentation de Google, bon, il leur avait fait un chèque de $100,000 à l'époque. Donc, je pense qu'il a depuis largement rentabilisé. Avec tout ça, ça nous fait Pigment, une nouvelle licorne française en garant.
Alors, effectivement, quand il y a un très beau dossier, et Zoé nous le dira, là, il y a de l'argent. On l'a vu pour Mistral, hein, qui a levé plus de 300 millions d'euros. Là, on le voit pour Pigment, qui est une très belle société. Tout le monde le... Et vous l'avez détecté très en amont. Effectivement... Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu de l'argent? Alors, de ce que j'ai lu, c'est en avance. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient même pas besoin. Oui. C'est-à-dire que c'est les
investisseurs. Alors, on rappelle, c'est un outil de planification stratégique. Voilà,
outil de planification financière et budgétaire qui a pour ambition extrêmement intéressante de remplacer Excel.
De remplacer Excel et de fournir aussi des simulations. Excel, voilà.
Voilà. Et de faire des simulations. Ça a été tout de suite adopté par les sociétés de la Silicon Valley. Mmh. Vraiment. Tout de suite. Alors que c'était vraiment un outil totalement débutant. Et ils ont réussi, donc ça leur a donné un certain prestige. Ils ont réussi à passer maintenant sur les grands comptes. Et ça c'est très intéressant parce qu'un grand compte, ça fait du revenu récurrent. Ouais. Voilà. Et quand on est en logiciel, il faut avoir le revenu récurrent. Et donc, ils ont triplé leur revenu récurrent. Et donc, ils ont prouvé que ça fonctionnait auprès des grands comptes, auprès des startups, auprès des petites entreprises, auprès des grands comptes. Et là, les fonds d'investissement, sans qu'on leur demande, enfin, ont remis de l'argent pour préempter. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais pour préempter d'autres fonds d'investissement.
C'est très important en ce moment.
Voilà. Alors, Zoé va peut-être nous expliquer. Mettre 145 millions d'euros
pour préempter. Et puis, avec des fonds sérieux, il y a un fonds, c'est présidé par, je sais pas si c'est présidé, mais en tout cas, lié à l'intérieur, c'est Sheryl Sandberg, alors, hein, l'ancienne numéro 2
de Meta. Ça, c'est très important. Meta, c'est pas tellement pour le montant d'argent qu'elle va mettre dans Pigment, c'est pour son carnet d'adresse.
Ouais.
Sheryl Sandberg connaît la terre entière.
Exactement.
Donc ça veut dire que c'est la meilleure VRP de Pigment. C'est la meilleure VRP qu'il pouvait imaginer.
Zoé.
Ouais, 50% de son revenu est déjà aux États-Unis auprès de grands comptes type Unilever, Datadog et autres. Et Sheryl Sandberg, ça doit être. Ouais, c'est un choix extrêmement judicieux. Donc ils ont fait ce tour de financement avec le même investisseur que le tour précédent, Iconic Growth. Super fonds d'investissement américain qui est de plus en plus implanté en Europe. On les connaît bien. Et effectivement, pour revenir sur ton point, en fait, quand on passe cette première phase de première levée de fonds d'amorçage de série A et qu'ensuite il faut se prouver, en fait, il y en a assez peu dans cette période qui se sont prouvés autant que Pigment. Parce qu'ils ne se sont pas juste prouvés sur le 3X, ils n'ont pas juste triplé leurs revenus. Ils ont réussi à tripler leur revenu et avoir la moitié de leur revenu aux États-Unis auprès de grands comptes. Au sein de ces comptes, ne pas juste être utilisé par la direction financière, mais par plein d'autres business units de
l'IA générative va leur faire un bien fou.
Ils ont intégré un peu d'IA générative déjà dans leurs produits, mais je veux dire, c'est quand même très impressionnant d'arriver à faire
très
tout ça.
Impressionnant.
Parce qu'il faut voir, hein, on a vraiment, enfin moi j'ai déjà vu tourner ce logiciel, on peut carrément faire des simulations, de dire tiens, le taux de change va bouger de 12% entre le dollar et l'euro, qu'est-ce que ça signifie pour mes revenus États-Unis, France, conférences, etc. Donc du coup, hop, je peux planifier, me dire bah tiens, je vais peut-être accentuer ma présence à tel endroit. Enfin, c'est assez
important. Si je perds ces deux clients, quel sera l'impact dans deux quarters sur mon sur mon revenu. Je veux dire, Excel, j'adore Excel, j'utilise Excel souvent, mais c'est vraiment, c'est quand même un logiciel ancien, très ancien. Et la raison pour laquelle on l'utilise tous, c'est parce que bon, il y a de la familiarité, mais surtout parce qu'il y a un network. Tout le monde utilise Excel.
Donc, en fait, on se comprend.
Peut-être que le prochain network sera Pigment.
Il y avait aussi une société qui a longtemps été dirigée par un Français, une société américaine qui s'appelait Anaplan.
Anaplan, qui existe toujours.
Qui existe toujours.
Qui marche plutôt bien aussi.
Qui a connu une croissance assez fulgurante. Il me semble qu'elle est moins importante maintenant.
Oui.
Mais qui avait déjà attaqué cet outil de planification.
Ils ont été rachetés 10 milliards par Thomas Bravo.
Oui, c'est ça. Par le fond Thomas Bravo. Bruno, parmi tout ça aussi, on voit, alors on reste dans cet univers du logiciel. C'était l'AWS Summit hier, donc le grand rendez-vous, plus de 10 000 personnes à Paris, porte maillot. On y était bien sûr avec Tech & Co Business, on y revient ce week-end. Et Amazon, a présenté sa plateforme Bedrock avec ou sur laquelle on va pouvoir l'entreprise cliente de cette plateforme va pouvoir utiliser du Mistral, du Stability, du Claude 3 d'Anthropic. Voilà, qu'est-ce que tu déjà plutôt pas mal pour notre français Mistral qui commence à se positionner, hein, présent chez OpenAI, présent là aussi. Comment tu regardes aussi on voyait AWS beaucoup plus discret, on les entendait, ils investissaient dans Anthropic, ils investissaient dans Stability, dans différentes entreprises, mais ça sortait pas, et puis là ça y est, c'est arrivé.
C'est drôle parce que ce matin, je faisais une entrevue avec un des représentants d'AWS et je lui posais justement des questions sur l'introduction de Mistral à l'intérieur de l'outil Bedrock. Et ça fait quelque temps que l'outil est là, mais là, c'est Mistral large qui arrive, qui est disponible. Donc, l'outil ultime qui a été développé par l'entreprise française. Et ce que ça permet de faire, ça permet de consolider la solution d'AWS, le fameux Bedrock, les outils. Ça permet de consolider l'outil en Europe parce que c'est les autres outils sont faits principalement aux États-Unis. On pense à Anthropic, on pense à Meta, qui a aussi des outils à l'intérieur de Bedrock. Mais là, on parle d'un outil qui est développé et qui est natif européen, si vous voulez, et qui répond très bien aux demandes et aux réalités, incluant culturelles, qui sont propres à l'Europe. Et ça, c'est pas banal. Ça répond aussi à certaines demandes de la part des entreprises, des organisations européennes qui veulent travailler avec des outils européens. Puis de l'autre côté, moi, ce que je trouve intéressant, très égoïstement, comme francophone, c'est que ça amène un outil qui est natif francophone, qui comprend bien la langue française et qui peut performer encore mieux que Claude 3, par exemple, ou des outils de Meta qui sont disponibles à l'intérieur. Et ça, je trouve que, d'une part, comme utilisateur, je trouve ça intéressant, mais c'est une belle reconnaissance du savoir-faire et ça va mettre de l'avant le savoir-faire des gens de Mistral. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Mistral, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les clients d'AWS.
Et bonne nouvelle aussi, peut-être aussi pour AWS, Bruno, parce qu'on a vu que AWS, alors, domine toujours les parts de marché, hein, parmi les trois hyperscalers. Le deuxième, c'est Azure, Microsoft, et puis derrière GCP. On a vu, donc AWS avait, sur le trimestre, avait 33% et passé à 31%. Dans le même temps, on a vu Azure qui a pris 1%, qui est passé de 23 à 24.
Ça veut dire qu'il y a moins de 10 points de différence.
Oui, et je suis sûr que si on regarde sur 2024, parce qu'avec OpenAI, parce que le but de pousser les gens vers OpenAI, ChatGPT, c'est que derrière, ils signent avec, ou Copilot, c'est que derrière, ils signent avec Azure. Donc je pense qu'on va avoir une croissance dans les deux. Des 6 prochains mois là pour Azure, et il fallait qu'AWS bouge, hein, parce que sinon les parts de marché allaient aussi bouger. Bruno.
Oui, puis eux, ils investissent énormément dans Anthropic. C'est des milliards après milliards qui sont investis. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait, avant le Paris Summit que vous avez eu cette semaine, il y a eu en début décembre ou fin novembre dernier à Seattle, il y avait cet événement-là. Il y avait le grand patron d'Anthropic qui venait signer, prendre la main des gens d'AWS pour confirmer leur partenariat. C'était un engin principal de leur stratégie d'IA. Mais de voir Mistral l'arrivée, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant pour tous les joueurs qui sont sur le continent européen, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils auront un outil qui va répondre à tout le côté, j'allais dire, législatif ou qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire. Puis ça, c'est pas banal non plus.
Ouais, ils auront le choix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix du cloud de ces trois Américains. Voilà.
C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que AWS a adopté une stratégie résolument tournée vers les besoins de ses clients. C'est-à-dire que Microsoft pousse OpenAI, parce qu'il a quand même mis 10 milliards dedans, donc c'est un peu normal qu'il pousse. Il pousse un tout petit peu Mistral également, hein, puisqu'il a fait... Enfin, Microsoft est véritablement marié avec OpenAI. Google est marié avec Gemini, puisqu'il l'a développé. Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'AWS est agnostique d'un point de vue technologique. Oui. Et donc, va dire à ses clients, mais quels sont vos besoins? Et en fonction de vos besoins...
En plus, ils conservent les versions open source. Hein,
exactement. Voilà. Ils ont même les versions de Llama, les versions open source de développées par Meta. Et en fonction de vos besoins, si vous voulez de l'open source, on a Llama. Si vous voulez du francophone, on a Mistral. Et donc, c'est un discours qui, moi, me paraît relativement intelligent et qui permet d'éviter de se faire grignoter des parts de marché par Microsoft. Voilà, moi je parierais sur le rebond de AWS.
Surtout que surtout qu'ils en ont besoin. Je veux dire, Amazon, c'est pas un, Amazon. Le reste du business, c'est pas un business très profitable. Tous leurs profits proviennent de AWS, donc ils en ont besoin. Est-ce que je suis 100% d'accord sur ce que tu viens juste de dire, donc j'ai rien à rajouter là-dessus. Ce que je rajouterais peut-être, c'est quand on est une grande entreprise et qu'on se lance dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Des barrières réglementaires, des barrières de sécurité, des barrières de mais d'où vient la data, est-ce qu'on va pouvoir me poursuivre en justice, etc.
De compétences.
Jusqu'à maintenant, et de compétences évidemment, jusqu'à maintenant, les entreprises clientes de Azure, donc de Microsoft, avaient un peu, c'était un peu décomplexifié là-dessus, puisque tous les produits qui proviennent de Azure sont, par définition, il y a un tampon de c'est OK. Mais bon, ce tampon, c'est seulement pour OpenAI et il n'y a que récemment qu'ils ont commencé à intégrer Mistral aussi. Mais via ce tampon, on a accès à GPT-4, le modèle le plus puissant qui existe aujourd'hui. Et là, on voit AWS avec une approche de plateforme qui va pouvoir proposer quasiment la même chose, si ce n'est qu'ils ne proposent pas GPT-4.
Oui. Et moi, je pense aussi...
Normal.
Deuxième semestre 2024, on devrait commencer à voir arriver aussi les Chinois. Je pense qu'il ne faut pas les laisser... les Tencent et tout ça ont des modèles aussi...
Oui, alors ça pose un problème de souveraineté.
Oui, ça pose un problème de souveraineté, mais ils ont quand même...
Ça pose un problème de souveraineté.
Des très bons
je
modèles.
Vois mal les grandes entreprises occidentales confier leurs données à un hyperscaler chinois qui avec une intelligence artificielle chinoise.
Sur le marché chinois, ils vont y aller sur le marché chinois, une fois qu'ils reviennent... en arrière. Je voudrais juste, dernière minute, parce que je voulais qu'on parle de ce sujet très rapidement. Bruno, les 20 ans de Gmail, c'était en 2004, un 1er avril, tout le monde, personne n'y croyait, on disait, c'est un 1er avril, une messagerie qui va nous proposer 1 giga de données alors qu'on avait 30 ou 60 mégas. Et puis oui, ils l'ont fait et aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. Plutôt un succès, pas en entreprise, mais plutôt et avec 15 gigas aujourd'hui de stockage gratuit. Bruno, on souffle que c'est 20 bougies.
Oui, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était pour les Happy Few, parce que de 2004 à 2006, c'était sur invitation seulement et ça valait de l'or, cette affaire-là, parce qu'on avait accès justement à 1 gigaoctet d'espace. À l'époque, c'était Hotmail, c'était Yahoo Mail qui étaient les grands joueurs.
On avait Caramel en France.
Oui, Caramel.
Dorian Garcia, oui.
Et ça, c'est du souvenir. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde, c'est 1,8 milliard, si je ne me trompe pas, d'utilisateurs.
Oui, c'est ça.
C'est un beau succès et ça fait que c'est devenu un incontournable et un joueur clé de toute la messagerie du bon vieux courriel.
Et puis, il faut le rappeler que ça avait été un peu l'élément déclencheur, un peu. C'était le premier pas de Google hors son moteur de recherche. Ouais. Et ça avait enclenché un peu toute la suite avec les Google Maps, Google Docs, les YouTube, les Chrome, enfin voilà, tout ce qui a suivi. Cet empire, toute la famille, voilà, comme tu dis. Merci infiniment à tous les trois. Bruno Guglielminetti, Minetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment un regard sur toute l'actualité qui nous concerne, qui vous concerne, qui vous intéresse. Merci à Zoé Moll, associée chez Balderton Capital, et Enguerrand Renaud, consultant chez Image7. Merci à tous les trois.
Merci,
c'était passionnant encore une fois.